La mort de Christ était une nécessité absolue, car la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, Hébreux 9, 22. La mort de Jésus ne fut pas une obligation qu'on lui imposa. Même avant d'être arrêté, il dit « Je donne ma vie » afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre telle est l'ordre que j'ai reçu de mon Père Jean X, 1718. La résurrection de Christ, si Jésus était mort et n'était pas ressuscité des morts, il page 73, aurait simplement disparu comme les autres chefs religieux dont nous connaissons les tombeaux et qui attendent le jour de la résurrection pour faire face au jugement de Dieu. Cependant, Jésus est ressuscité des morts. Il a été vu par de nombreuses personnes, y compris les disciples, qui reçurent de lui une nouvelle puissance, car il était leur Seigneur ressuscité. Ils furent ainsi motivés à le prêcher à n'importe quel prix. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Dieu l'a ressuscité comme signe d'approbation de l'œuvre de salut accomplie sur la croix. La Bible dit « Dieu l'a ressuscité » acte 2, 24. Dieu a ressuscité le Seigneur 1 Corinthiens 6, 14. Il y a une tombe 8 Jean 20, 1-4 pour en témoigner. Jésus est vivant aujourd'hui. Je l'ai reçu en 1966 et il a complètement changé ma vie. Il est vivant. Je lui ai parlé ce matin et il m'a répondu. Gloire au Seigneur ressuscité. L'intronisation de Christ Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est monté au ciel. Il occupe maintenant au ciel le trône le plus élevé. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez acte 2, 32-33, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 19-23. Page 74. Jésus est sur le trône. Il a reçu du Père le Saint-Esprit et il baptise du Saint-Esprit tous ceux qui sont prêts à en payer le prix. Il a reçu une pleine autorité. Le diable et tout l'univers sont sous son contrôle. Il est réellement le Seigneur ? Le retour du Seigneur, le Seigneur Jésus, a promis de revenir. Son retour se fera en deux étapes. D'abord, il viendra pour prendre ceux qu'il aime. C'est ce qu'on appelle généralement l'enlèvement. La Bible dit car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés, avec eux sur les nues et à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons, toujours avec le Seigneur 1 Thessaloniciens 4, 16-17. Ensuite, lui et ceux qu'il aime reviendront sur la terre pour juger le monde. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? 1 Corinthiens 6, 2. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent, en possession du royaume Daniel 7, 21-22. Le retour du Seigneur et l'enlèvement de ses adorateurs sont l'objet du désir brûlant de l'Église. Tous ceux qui rejettent Jésus maintenant le rencontreront ce jour-là comme leur juge ? Ceux qui l'aiment maintenant bénéficieront du merveilleux privilège de le voir et de jouir de sa présence à jamais. La réponse du pécheur Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour payer le prix du péché. Il a donné son Fils pour qu'il meure pour le pécheur et, page 75, l'a ressuscité pour qu'il soit vivant pour le pécheur. Cependant, le pécheur doit répondre à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour le pécheur, qui s'est manifesté dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, ne sert pratiquement à rien tant que le pécheur ne répond pas positivement à cet amour. Pour répondre à cet amour, le pécheur doit faire les choses suivantes. 1. Se repentir. Les premières paroles données par le Seigneur Jésus à un monde chargé de péché furent « Repentez-vous ». Il a dit « Le temps est accompli » et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Marc 1, 14. Il a aussi donné l'ordre que la repentance et le pardon des péchés soient prêches en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, Luc 24, 47. L'apôtre Pierre avait ordonné à la multitude, le jour de la Pentecôte, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, acte 2, 38. La repentance est un changement d'attitude envers Dieu. Avant de se repentir, un pécheur considère le péché comme quelque chose de merveilleux ou, à la rigueur, de tolérable. Après s'être repenti, il connaît le péché comme étant une chose absolument abominable et intolérable. Avant de se repentir, il n'attache aucune importance au Seigneur Jésus. Après s'être repenti, il le reconnaît comme étant le Seigneur suprême. Avant sa repentance, il considère les lois de Dieu comme étant dures et méchantes. Après sa repentance, il les considère comme étant douces et bonnes. Le pécheur se repent devant Dieu de sa nature de péché et de ses œuvres pécheresses. 2. Confesser le péché. Ce changement d'attitude doit conduire à une confession, page 76, profonde du péché. Le pécheur doit confesser au Seigneur son péché de rébellion et tous ses péchés, de préférence l'un après l'autre. Ceci doit être fait aussi soigneusement que possible. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, 1 Jean 1, 9. Cette confession des péchés doit être profonde et minutieuse. Dieu n'acceptera pas de demi-mesure. 3. Recevoir Christ. Quand le pécheur a confessé ses péchés et que Dieu l'a purifié, il possède maintenant un cœur dans lequel le Seigneur Jésus peut venir habiter. Le Seigneur doit alors être reçu dans le cœur et dans la vie par un acte conscient. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu » Jean 1, 12. Jésus a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi à Pâques. » 3, 20. Jésus peut être reçu en faisant la prière suivante ou toute autre prière semblable au Seigneur Jésus, j'ai péché en pensée, en parole et en acte. Je mérite la condamnation éternelle, mais tu es mort pour moi pour ôter ma punition. Je crois fermement que tu es le seul chemin de Dieu conduisant au salut. Pardonne-moi tous mes péchés. Viens dans mon cœur, afin que je devienne un enfant de Dieu et que je ne périsse jamais. Amen. 4. Le baptême d'eau. Dès que l'on a reçu le Seigneur Jésus, on doit immédiatement être baptisé. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » Marc 16, 16. 5. En finir avec le passé. Page 77. Celui qui a reçu Christ est une nouvelle créature, en Christ 2 Corinthiens 5, 17. Il doit immédiatement en finir avec son passé. 6. La communion fraternelle. Cette nouvelle créature grandit dans la communion avec les autres. Aucun nouveau chrétien ne devrait rester seul. Il est devenu membre du corps de Christ. Il doit chercher à se joindre à l'expression locale de ce corps. À l'intérieur du corps, il sera assuré du salut, il sera conduit au baptême dans le Saint-Esprit et il apprendra le chemin de la souffrance. Les buts du témoignage, le principal but du témoignage est de glorifier Jésus. Un véritable témoin exalte le Seigneur. C'est le principal désir de Dieu. Il veut que le Fils soit honoré. La Bible dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 2-11. Chaque fois que l'on rend témoignage de Jésus, Dieu est glorifié et Christ est glorifié. C'est Dieu, et non pas les hommes, qui est le but principal de l'évangélisation. Si l'évangile est prêché, avec pureté et puissance, même s'il n'y a pas de conversion, Dieu est néanmoins glorifié. Ceci veut dire que le véritable témoin cherchera non pas à plaire aux hommes en obtenant de maigres résultats, mais à plaire à Dieu. Ceci devrait faire réfléchir profondément de nombreux évangélistes. Dieu ne se soucie pas en tout premier lieu des pécheurs. Il recherche d'abord l'élévation et la glorification de son Fils. Lorsque ceci est accompli, son cœur est satisfait. Page 78. Fait. Ainsi, tous ceux qui rendent témoignage doivent avoir pour objectif de satisfaire le cœur de Dieu. Le second but du témoignage est le salut des pécheurs. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu a déjà donné son Fils. Il veut que son don d'amour soit reçu. Les hommes ne peuvent pas le recevoir s'ils n'entendent pas parler de lui. Ainsi, amener un pécheur au salut est le second but important de l'évangélisation. Bien que ce soit seulement le second but, cela produit tout de même des conséquences importantes. Dieu est à la recherche d'une épouse pour son fils. Si l'on n'évangélise pas, cette épouse ne sera pas trouvée. Ceux qui coopèrent avec Dieu dans l'évangélisation sont en train d'accomplir une tâche dont les conséquences sont lointaines. La troisième raison pour laquelle il faut rendre témoignage est d'empêcher les pécheurs d'aller en enfer. Ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et Seigneur périront éternellement. Il n'y a qu'un seul chemin pour échapper à l'enfer, la foi au Seigneur Jésus. Mais comment les hommes croiront-ils en un Christ dont ils n'ont jamais entendu parler? Le témoin est donc engagé dans une puissante opération de sauvetage. Si tu ne rends pas témoignage, des pécheurs périront éternellement. As-tu jamais pensé que quelqu'un passera toute l'éternité en enfer parce que tu ne lui auras pas montré le seul chemin de Dieu pour sortir de l'enfer? Pense aux membres de ta famille, à tes collègues, à tes amis, aux gens avec lesquels tu t'assois dans le taxi, le bus, etc. Imagine que ces gens iront en enfer et gémiront tout au long de l'éternité en disant « Je suis ici parce qu'il m'a tellement haï qu'il a refusé de me dire la seule chose au monde que l'on aurait dû dire. » Page 79. Il est dangereux de ne pas rendre témoignage. Le Seigneur dit à chacun de ses enfants, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et tu sauveras ton âme. Ézéchiel 3, 17-19. Le Seigneur est si sérieux à ce sujet que je crois qu'il pourrait répéter à chacun de nous ce qu'il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme une sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui, s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ézéchiel 33, 2-6. Chaque chrétien est une sentinelle. Je dis bien chaque chrétien. Ce n'est pas la tâche de quelques-uns seulement. Le témoignage est la tâche et la responsabilité de chaque chrétien. Tous ceux qui sont sauvés courent des dangers s'ils ne rendent pas témoignage. Dieu donne un avertissement à tous ceux qui ne sont pas sauvés. Il a dit « L'âme qui pêche mourra » Ézéchiel 18, 4. Et aussi « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne ?» Page 80. « Croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu » Jean 3, 18. Dieu n'épargnera pas les incrédules. Sa parole dit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Jude 5-7. L'avertissement n'est pas connu par ceux qui sont perdus. Ceux qui sont sauvés le connaissent, mais il ne les concerne pas. Ils doivent faire connaître cet avertissement aux perdus. Si l'avertissement n'est pas donné, l'incrédule mourra dans son péché, car il a péché, mais Dieu redemandera son sang aux chrétiens. Un chrétien qui ne rend pas témoignage possède des mains et un corps souillé et taché par le sang de ceux qui périssent parce qu'il ne les a pas avertis des conséquences de l'incrédulité. Le chrétien doit aussi bien proclamer la colère de Dieu que l'amour de Dieu. S'il ne proclame que l'amour de Dieu, il est infidèle? S'il ne proclame que la colère de Dieu, il est aussi infidèle? Il doit proclamer tout le conseil de Dieu et une partie de ce conseil parle de la colère de Dieu. Le témoin doit inviter les hommes à répondre à l'amour de Dieu. Il doit aussi leur annoncer que, s'ils rejettent cet amour, cela entraînera leur mort. Cher saint, si tu ne rends pas témoignage, la colère de Dieu t'attend certainement. Si tu ne rends pas témoignage, tu empêches Dieu d'atteindre son but éternel, qui est de présenter une épouse à son fils. Que fera Dieu de ceux qui obstruent délibérément son but éternel? La réponse est évidente. Que cela ne t'arrive pas? Page 81. Les bénédictions associées au témoignage. La bénédiction la plus évidente associée au témoignage est le fait que des hommes passent de la mort à la vie parce que nous leur avons présenté l'Évangile. Ce sera merveilleux, quand nous serons dans la gloire, de rencontrer des gens qui nous diront « Je suis si reconnaissant au Seigneur pour toi, car tu m'as rendu témoignage. J'ai ainsi été capable de devenir enfant de Dieu et je suis ici à présent. Je suis sûr qu'un tel témoignage compensera tous les problèmes qu'entraîne l'évangélisation. » Une autre bénédiction associée au témoignage est la joie de coopérer avec le Seigneur Jésus dans la tâche qui lui est la plus chère. Il a dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger » Jean 10, 16. As-tu jamais pensé au privilège de coopérer avec celui avec lequel tous les cieux languissent de coopérer? Plus que cela encore, nous coopérons aussi avec le Saint-Esprit. Le Seigneur de gloire a dit quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, Jean 15, 26-27. Être un partenaire de Dieu et du Saint-Esprit. C'est un honneur qui dépasse toute mesure. La plus grande bénédiction associée au témoignage est le fait de savoir que le témoin obéit ainsi à Christ. C'est le privilège réservé aux adorateurs du Seigneur. Il a dit « Rendez témoignage. Ceux qui obéissent réjouissent son cœur. Si tu sais que tu es en train de faire ce qu'il veut que tu fasses, tu es dans le repos. Les résultats sont secondaires. L'obéissance est primordiale. Que Dieu t'accorde la sagesse d'être un témoin. Tu n'as pas le choix, en témoignage ou péri. » Page 82. L'apôtre Paul a dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée » 1 Corinthiens 9, 16-17. Nous attirons sur nous des bénédictions ou des malédictions, selon que nous annonçons l'Évangile ou pas, selon que nous rendons témoignage de Christ ou pas. On peut rendre témoignage pour éviter les malédictions ou obtenir les bénédictions. Cependant, il y a une raison supplémentaire pour témoigner, c'est une nécessité qui s'impose à chaque chrétien. Chaque chrétien a reçu du Seigneur une grande commission. Il n'a donc aucun choix. Il doit l'accomplir. Qu'il le veuille ou non, il doit rendre témoignage. Aucun chrétien n'a le droit de demander s'il doit rendre témoignage ou non. S'il est chrétien, il doit témoigner. Si un chrétien cesse de rendre témoignage, il mourra. Dieu ne permettra pas à un chrétien qui ne porte pas de fruits parce qu'il ne rend pas témoignage de continuer à être un chrétien. Le Seigneur Jésus a dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, Jean 15, 2. La stérilité entraîne le désastre. Celui qui rend témoignage de bon cœur recevra une récompense. Celui qui ne veut pas rendre témoignage doit tout de même le faire parce qu'il en a reçu l'ordre du roi des rois. Nous le répétons, tous les chrétiens doivent être des témoins. Une question difficile, le Seigneur Jésus a ordonné à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples il y a de cela près de 2000 ans. Ce commandement n'a jamais été complètement exécuté. Il y a encore des communautés, des tribus entières, des villages. Page 83. Entiers, etc., qui ne sont pas évangélisés. Il existe des tribus entières où il n'y a même pas un seul chrétien et même de nombreux endroits où il n'y a eu qu'un simulacre d'évangélisation. Ce n'est pas l'évangile de la Bible qui a été prêché, mais plutôt un message mort annoncé par des hommes morts, et ce message a produit la mort. Ce genre de message ne produit qu'une multitude de pécheurs baptisés et confirmés qui sont conduits en enfer par de nombreux conducteurs religieux. Ces gens n'ont pas été évangélisés de la manière biblique. À notre avis, la plus grande partie de notre terre n'a pas été évangélisée. Face à une telle situation, je me demande ce que nous dirions, vous et moi, si le Seigneur Jésus apparaissait soudain au milieu de nous et nous posait cette simple question : pourquoi la terre n'est-elle pas évangélisée ? Avez-vous fait de votre mieux pour évangéliser le monde ? Quand je pense à cela, je ne trouve aucune réponse convaincante à donner si je me tenais devant mon Seigneur. Il me semble que le mieux est de faire tout ce que je peux maintenant pour que je ne sois pas honteux quand je me tiendrai devant lui en ce jour. La détresse de ceux qui n'ont pas été évangélisés, un missionnaire s'était rendu dans une tribu de Chine au XIXe siècle et y avait apporté le message de l'amour de Dieu qui sauve en Jésus-Christ. Un homme reçut le Seigneur Jésus dès qu'il eut entendu l'évangile. Il trouva le Seigneur si merveilleux qu'il demanda au missionnaire « Depuis combien de temps ce message de l'amour de Dieu en Christ est-il connu dans votre pays ?» Le missionnaire répondit « Depuis environ 1800 ans. »« 1800 ans ?» s'écria le jeune converti chinois. Il ajouta « Les larmes aux yeux, mon père a cherché et cherché le vrai Dieu et il est mort sans l'avoir trouvé. Comment avez-vous pu garder un tel message, ne serait-ce que… » Page 84. 100 ans sans vous assurer que tous les hommes du monde entier l'aient entendu ? Oui, frères et sœurs, telle est la question à laquelle nous sommes confrontés. Comment quelqu'un peut-il avoir trouvé le remède capable de guérir d'une maladie fatale, dont les conséquences sont éternelles, et aller tranquillement se coucher sans rien dire aux autres malades ? Si cela se passait ainsi sur le plan physique, nous devrions considérer un tel homme comme étant l'incarnation même de la méchanceté ? Mais qu'en est-il de toi et de moi ? Nous avons fait quelque chose de pire. Nous avons caché ou simplement retenu pour nous-mêmes le seul remède capable de guérir la pire des maladies qui aboutit au jugement de Dieu, à la séparation éternelle d'avec Dieu et à l'enfer. Est-ce juste ? Est-ce normal ? Un païen a dit une fois à un chrétien « Si je croyais à ce que tu crois, que Christ est le seul chemin pour revenir à Dieu et que tous ceux qui ne le connaissent pas périront éternellement, je ne me reposerai pas, je ne ferai rien d'autre, sinon travailler activement nuit et jour pour m'assurer que tous les hommes du monde entier puissent entendre ce message. Je ne me reposerai pas, je ne donnerai aucun repos au monde tant que je ne l'aurai pas rempli de la connaissance de ce message. Je ne crois pas à ce que tu annonces, quand je te vois prendre tes aises et te complaire en toi-même. Tu ne crois même pas à ce que tu dis. Toi et moi, nous sommes pareils. Il nous manque une passion suprême dans notre vie. As-tu une passion suprême dans ta vie ? Si tu en as une, puis-je te demander laquelle ? Est-ce la conquête de ceux qui sont perdus ? La Bible est le témoignage, la Bible est le manuel du témoin. Celui-ci doit la connaître. Page 85. Profondément. Il doit aussi savoir comment l'utiliser. Les versets pertinents de la Bible qui concernent la perdition de l'homme et le chemin du salut doivent être mémorisés et soulignés dans la Bible. Nous n'avons aucune excuse de ne pas connaître la Bible. Je n'oublierai jamais ce moment où un chrétien tentait de convaincre un incroyant que Jésus est le seul chemin du salut. L'incroyant demanda où est-il écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le seul chemin du salut. Le chrétien se mit à se gratter la tête et à feuilleter la Bible pendant que l'incroyant attendait. Finalement, celui-ci dit au chrétien confus « Si ce dont tu prétends me convaincre était vraiment sérieux, tu saurais au moins dans quelle partie de la Bible cela se trouve. » C'est là un sérieux avertissement. Les incroyants nous observent. Ils trouvent choquant que des chrétiens ne connaissent pas profondément leur manuel de base, la Bible. La prière et le témoignage, un témoin efficace, doit être inscrit à l'école de la prière. Il doit utiliser comme un modèle les méthodes de témoignage employées par le Seigneur. Le Seigneur Jésus n'a jamais parlé de son Père aux hommes avant d'avoir parlé des hommes à son Père. Voilà pourquoi il avait l'habitude de parler au Père avant de parler à quiconque. La Bible dit vers le matin, Pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1, 35. La profondeur de la communion entre le Seigneur Jésus et le Père dans la prière ne peut être exprimée par des mots. Combien n'a-t-il pas plaidé en faveur des hommes? Combien a-t-il dû supplier Dieu de changer leur cœur et de leur accorder la foi en lui pour être sauvés? Il a sans cesse intercédé dans la prière et le Seigneur conduisit des hommes à croire en lui. Cela se passera de la même façon aujourd'hui. Tous les témoins efficaces sont des hommes aidés. Page 86. Femmes de prière. Ils prieront pour que soient ôtés tous les obstacles à une foi authentique au Seigneur Jésus. Ils prieront pour que soient ôtés la mondanité, l'amour du péché, l'incrédulité, etc. Ils insisteront devant Dieu dans la prière, en disant « Seigneur, donne-moi cette personne, afin que je la présente à ton Fils comme une partie du trésor gagné à la croix. » Par la prière, le témoin déliera les hommes des chaînes de l'incrédulité. Comme rien n'est impossible à un cœur qui prie dans la foi, aucun homme ne sera impossible à gagner au Seigneur Jésus, pour quelqu'un qui est profond dans la prière. Non seulement l'homme de prière priera le Père pour recevoir de lui des réponses à ses prières, mais il pleurera pour être exaucé par le Père. Il y a une réalité dans le témoignage et l'enfantement spirituel qui reste inconnu à ceux qui gardent les yeux secs. Le prophète Jérémie a dit ainsi: « Parle l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus » Jérémie 31, 15. En réponse à de telles larmes, le prophète dit encore ainsi: « Parle le Seigneur, l'Éternel retient tes pleurs, retient les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. » Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire, Jérémie 31, 16-17. Lorsque nous sommes sérieux avec le Seigneur, nous n'allons pas nous contenter de prier, nous allons aussi pleurer. La Bible dit, à propos d'un âne, pourquoi pleures-tu et ne manges du pain? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs à Samuel 1, 8-10. Elle ne pouvait plus supporter sa stérilité, alors elle pleurait. Elle ne mangeait plus, elle jeûnait. Son cœur était triste. Elle était dans une profonde détresse. Elle pria. Dieu ne pouvait pas faire la sourde oreille à une telle prière. Il exauçait sa prière et, bientôt, ses larmes se transformèrent en joie, car elle, page 87, eut un fils, et elle loua le Seigneur, en ces mots: « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours » 1 Samuel 2, 1. Cependant, ce fils de la réjouissance ne lui fut accordé qu'après avoir été amèrement affligé, avoir répandu son cœur devant le Seigneur, avoir parlé par excès de douleur et de chagrin, 1 Samuel 1, 15-16. Rachel a dit « Donne-moi des enfants, ou je meurs » Genèse 30, 1. Elle était décidée. Peu après, elle eut un fils. Lorsqu'un tel témoin commence à répandre son cœur devant le Seigneur dans la prière, et qu'il est prêt à mourir s'il n'est pas exaucé, Dieu lui répondra et lui donnera des enfants spirituels. Tout chrétien sérieux devrait dresser une liste de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour lesquels il priera. Un chrétien qui a un certain nombre d'années dans le Seigneur devrait avoir des centaines de noms sur une telle liste. Celle-ci pourrait par exemple se présenter de la manière suivante: nom de la personne, date des contacts, réponse, date de la conversion, niveau actuel de croissance. Les noms et les commentaires figurant sur cette liste doivent nous guider dans la prière jusqu'à ce que chaque personne soit sauvée et continue à grandir et à se fortifier dans le Seigneur. Semer en abondance. Page 88. Parlant des besoins financiers de l'œuvre du Seigneur, l'apôtre Paul a dit: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, 6. J'ai la conviction que le même principe s'applique aussi au témoignage. La personne qui rend témoignage à peu de gens verra aussi peu de gens se convertir au Seigneur, et la personne qui rend témoignage à beaucoup de gens en verra beaucoup venir au Seigneur. Dans la parabole du semeur, nous voyons que parmi les quatre types de terrains sur lesquels était tombée la semence, un seul terrain donna du fruit qui demeure. Les trois autres furent inutiles. Si nous illustrons ceci en disant que le quart de toutes les semences est tombé sur chacun des quatre types de terrain, cela signifie que si le semeur a commencé à semer sans graines, 25 sont tombés sur la bonne terre. En revanche, s'il avait commencé à semer 100 000 graines, 25 000 seraient alors tombées sur la bonne terre. Nous pouvons donc conclure qu'une récolte est directement proportionnelle à la quantité de semences utilisées. Celui qui paie le plus grand prix pour annoncer l'évangile à de nombreuses personnes récoltera plus de fruits que celui qui se contente de peu et qui ne veut pas payer le prix nécessaire pour semer abondamment. Cher saint, es-tu en train de semer abondamment ou avec parcimonie? Tu récolteras proportionnellement à ce que tu sèmes. Un témoignage qui porte du fruit et un fruit qui demeure le Seigneur Jésus a dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples » Jean 15, 8. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que » Page 89. « Vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne » Jean 15, 16. Il y a quelque chose de très troublant, c'est la disproportion entre le nombre de personnes qui sont supposées avoir reçu Christ et le nombre effectif de croyants qui persévèrent dans les assemblées. Les spectacles organisés aujourd'hui par des évangélistes aux allures de Playboy, les messages superficiels souvent proclamés, qui invitent des pécheurs non repentants à rentrer avec tous leurs péchés dans le royaume de Dieu, pour y occuper une place de choix, la maigre vie de prière de beaucoup de chrétiens qui témoignent pour Christ, tout cela contribue à produire cette situation. Si tu veux produire du fruit qui demeure, tu dois demeurer toi-même dans le Seigneur, faire confiance au Saint-Esprit pour qu'il produise une conviction de péché et une véritable conversion et cesser d'annoncer ce message bon marché, venez à Jésus et tous vos problèmes seront résolus. Déchire ton cœur dans la prière devant Dieu. Ne cache pas le prix qu'il faut payer pour être un disciple, explique-le plutôt en détail afin que les cœurs partagés ne perdent pas leur temps à répondre. Sème la semence. Ne te contente pas de l'éparpiller. Ne demande pas aux gens de prendre une décision tant que tu ne leur as pas clairement présenté ce pourquoi ils doivent se décider. Ne sois pas motivé à présenter des chiffres à des hommes charnels. Il faut que Dieu voie que tu portes du fruit. Cela te suffit. Souviens-toi que tu fais partie d'une équipe. L'apôtre Paul a dit « Qu'est-ce donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul ?» Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun, page 90, recevra sa propre récompense, selon son propre travail, 1 Corinthiens 3, 5-8. Tes motivations sont-elles pures? Rends-tu témoignage pour que Christ soit glorifié ou pour gagner des convertis pour toi-même, pour ton organisation, ta dénomination ou ta doctrine? Le travail accompli avec des motivations impures ne subsistera pas le jour où tu devras en rendre compte à Dieu. Rappelle-toi ceci or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu 1 Corinthiens 3, 12-15. Tel père, tel fils du point de vue biologique, il est normal que les enfants ressemblent à leurs parents, à la fois pour leur caractère visible et pour ceux qui sont invisibles. Il en va tout autant, et même davantage, sur le plan spirituel. Un chrétien charnel produira des convertis charnels. Un chrétien qui aime le péché produira des convertis qui aiment le péché. Un chrétien consacré produira des convertis consacrés. Un homme de prière produira des hommes de prière. Un homme rempli du Saint-Esprit produira des hommes remplis du Saint-Esprit. Certes, il y aura toujours des Judas qui trahissent et des démas qui rétrogradent. Mais il est certain que nous transmettons à nos enfants spirituels quelque chose de ce que nous, page 91, sommes nous-mêmes. Ceci se présente sous deux aspects. Premièrement, pour ce qui concerne les caractères invisibles. D'une manière que je ne peux expliquer, les gens que nous conduisons à Christ, qu'ils nous voient ou non, nous ressembleront jusqu'à un certain degré. Nous ne pourrons jamais échapper à ce fait. Ensuite, pour ce qui concerne les caractères visibles, un homme de prière enseignera à ceux qu'il conduit au Seigneur à prier et à devenir des hommes de prière. Un homme qui étudie sérieusement la parole de Dieu enseignera aussi la même chose à ceux qu'il conduit au Seigneur. Ceci est normal. Je voudrais que tu considères ceci très sérieusement. Examine ta vie à la lumière de Dieu. Examine ta vie cachée, que personne d'autre ne voit, sauf Dieu et toi. Comment est-elle? Ressemble-t-elle à celle de Christ? S'il y avait, dans le royaume de Dieu, des multitudes de personnes comme toi, serait-ce une bénédiction ou une malédiction? Par ton témoignage, vas-tu donner à Dieu des enfants obéissants ou des rebelles? Réfléchis profondément à cela, car c'est un sujet sérieux dont les conséquences sont éternelles. J'ose dire que la responsabilité première de chaque croyant n'est pas de prêcher l'Évangile, mais de se rendre lui-même digne de prêcher l'Évangile. Sinon, l'Évangile qu'il vit contredira celui qu'il prêche. Si ton caractère n'est pas conforme à ton message, tu es une fausse représentation de Christ, un faux témoin et une abomination pour le royaume de Dieu. Produire ceux qui produiront des disciples, lorsque le Seigneur a commandé de faire de toutes les nations des disciples et d'enseigner ses disciples à faire des disciples qui, à leur tour, formeront d'autres disciples. Il n'a pas demandé aux 12 d'aller chacun essayer de faire de tout le monde des disciples, mais il devait former ceux qui seraient, page 92, capables de le faire. Paul recommanda ensuite à Timothée la même chose, car il lui a dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 1 Timothée 2:2. Il est extrêmement important que ceux qui viennent à Christ grandissent et produisent d'autres convertis. Je vais illustrer cela de la manière suivante. Supposons qu'il faille une année à un chrétien pour grandir et produire un autre chrétien qui prendra à son tour une autre année pour grandir et pour produire un nouveau croyant. Si cela continue ainsi, un seul chrétien converti en 1981 entraînera la conversion de 524 288 chrétiens en l'an 2000, c'est-à-dire en 20 ans. Nous obtenons en effet la progression suivante 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144, 524288 chrétiens en chrétiens en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, page 93. Si l'un des chrétiens de 1992 a chuté et qu'il n'ait donc amené aucune âme nouvelle au Seigneur, nous aurons la progression suivante. 1, 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072, 262144 chrétiens en chrétiens en 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, signifie qu'en l'an 2000, il n'y aura moitié de ceux qui auraient dû être gagnés à Christ. La situation serait pire si, en 1985, au lieu de 8 personnes qui persévèrent, 4 avaient chuté. Il n'y aurait plus que 8 chrétiens fidèles en 1986. cela signifie qu'en l'an 2000, il n'y aurait que 131 072 convertis au lieu des 524 288 que le Seigneur espérait si tous étaient restés fidèles. Cela représente exactement le quart du chiffre qui aurait pu être atteint. Page 94. Mes frères bien-aimés, ces chiffres m'ont fait découvrir quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant. Je veux parler de la tragédie provoquée par ceux qui rétrogradent. Oui, c'est une tragédie personnelle pour celui qui rétrograde, mais c'est une tragédie encore plus grande pour l'Église, pour les desseins de Dieu et pour le monde entier. Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de tous ses enfants pour qu'ils comprennent ceci. Puisse-t-il nous aider tous à éviter de rétrograder et à tout faire pour empêcher les autres de rétrograder. Le besoin de former des reproducteurs impose aux témoins des exigences très sévères. On peut citer en particulier celle-ci 1. Nous devons marcher très près du Seigneur pour qu'il nous permette de former des reproducteurs. Si tu es tiède et que tu veuilles servir le Seigneur, plutôt par obligation, il se peut qu'il t'écarte de son service afin que tu ne remplisses pas l'église de convertis qui te ressemblent et qui seront une abomination pour le Seigneur. 2. Il vaut mieux concentrer nos efforts sur la formation d'un petit nombre de chrétiens engagés qui iront de l'avant pour gagner d'autres âmes que de courir partout pour produire des bébés dont personne ne s'occupera, qui resteront des nains spirituels et seront un problème pour l'église. 3. Nous devons faire des disciples et non des convertis. Les conditions à remplir pour être disciple William MacDonald, dans son précieux livre Le vrai disciple, énonce cette condition fondamentale pour être un vrai disciple, selon la parole de Dieu. Ces conditions sont les suivantes. 1. Avoir un amour suprême pour Jésus. Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple » Luc 14, 26. Page 95. 2. Renoncer à soi-même. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive » Matthieu 16, 24. Ceci signifie un abandon total à la volonté de Dieu. 3. Choisir délibérément de porter sa croix. Qu'il se charge de sa croix, Matthieu 16, 24. La croix est un chemin sur lequel on s'engage de notre plein gré. Pour le monde, il s'agit d'un chemin qui conduit à la honte et à l'opprobre. La croix symbolise la honte, la persécution et les insultes que le monde a accumulées sur le Fils de Dieu et qu'il continuera à accumuler sur ceux qui choisissent d'aller contre le courant de ce monde. Tout chrétien peut éviter la croix en se conformant simplement au monde et à ses voies. 4. Consacrer toute sa vie à suivre Christ. Alors Jésus dit à ses disciples qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive Matthieu 16, 24. Le disciple doit suivre Jésus chaque jour, toute sa vie, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, en marchant dans la puissance du Saint-Esprit, en rendant aux autres un service désintéressé, en supportant patiemment et avec persévérance les plus mauvais traitements. C'est une vie de zèle, de sacrifice, de maîtrise de soi, etc. 5. Avoir un amour ardent pour tous ceux qui appartiennent à Christ. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13, 35. C'est un amour qui estime que les autres sont meilleurs que soi-même. C'est un amour qui couvre une multitude de péchés. C'est un amour bienveillant qui supporte tout. 6. Persévérer sans défaillance dans sa parole. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, 31-32. Les vrais disciples doivent être persévérants. Il est assez facile de bien commencer ou de partir en trombe dans une flambée de gloire.